Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Franck Kadze.
Nous sommes samedi 15 janvier 2022. Vous êtes bien sur la radio Nzamba à Tekakawe. C'est l'heure du journal. Tout d'abord les titres. Une église en construction s'est effondrée vendredi, faisant 2 morts et 6 blessés parmi les ouvriers. Cela s'est passé dans le secteur Gasséni sur la colline Kilema de la province Kayanza. Les représentants de l'église Eusebou à Nyanzalak sont persécutés par la police et l'administration. C'est du moins l'avis des fidèles de cette église après l'emprisonnement de 4 de ses représentants. Et puis, s'il y a une mesure qui ne fait pas l'unanimité, c'est bien les tests de niveau pour les enseignants en activité annoncés par le ministère de l'Éducation. Les syndicats des enseignants ont déjà lancé un préavis de grève si la décision n'est pas suspendue. Et selon Eulalie Nivizi, activiste de l'éducation pour tous, c'est tout simplement inutile. Vous la suivrez dans ce journal. Voilà pour les titres. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
2 personnes sont mortes et 6 autres blessées grièvement suite à l'effondrement des murs d'une église qui était en construction. C'était des ouvriers qui construisaient l'édifice de l'église Pentecôte dans l'après-midi de ce vendredi dans le secteur Gasséni sur la colline Kilema de la province Kayanza. Selon des informations recueillies auprès des habitants de cette province, ce n'est pas la première fois que ce genre d'accident se produit. L'administration locale met en garde ceux qui construisent sans avoir consulté des ingénieurs qualifiés pour la construction des infrastructures publiques. Le point avec Parfait Moudassigana.
Un jeune adolescent de 16 ans est mort sur le champ, tandis qu'un homme âgé de 67 ans est décédé après évacuation à l'hôpital. Selon les informations recueillies auprès de ses habitants, ce chantier de l'église était construit d'une manière anarchique, sans chaînage, pour renforcer les murs, alors que certains avaient averti les ouvriers d'un risque imminent d'accident, mais ils ont préféré faire la sourde oreille. Les habitants de cette localité demandent à ce que l'administration soit toujours mise au courant avant toute construction afin d'éviter tous les risques d'accident. L'administration de cette commune fait appel aux constructeurs de consulter les ingénieurs qualifiés en génie civil afin d'acquérir de bons conseils.
Parfait, Moudassigana. On quitte le nord pour le sud du pays. 4 représentants de l'église Eusebou de Nyanzalak sont en prison depuis un mois. D'autres sont en cavale de peur d'être arrêtés. C'est la peur panique chez les fidèles de cette église de la mission de Nyanzalak. Ils estiment que leurs représentants sont persécutés sans motif valable. Vanessa Muhiteka.
Certains fidèles de l'église unie du Saint-Esprit du Burundi, Eusebou en sigle, disent qu'ils vivent dans la clandestinité depuis l'arrestation de 4 des pasteurs. Les agents du Service national de renseignement et la police agissent sur injonction des administratifs pour traquer les fidèles de l'église Eusebou. Tout a commencé le 6 décembre dernier, date de l'arrestation de ces 4 pasteurs, arrestation ordonnée par l'administrateur de la commune Nyanzalak, Gretila Dukunda. Ils ont été arrêtés après contestation de la décision de cette administrative qui a ordonné leur réintronisation des pasteurs contestés par la majorité de la conférence des pasteurs et fidèles de cette église. Le reste des pasteurs et fidèles de cette église vivent dans la clandestinité, selon certains d'eux contactés. Ces fidèles demandent que l'administration de Nyanzalak respecte la souveraineté de l'Assemblée des pasteurs.
Nous avons saisi l'administrateur de Nyanzalak avec copie au gouverneur, mais ils n'ont rien fait pour résoudre notre problème. Nous n'avons pas été entendus. Par contre, ils ont convoqué des groupes. Nous réitérons notre demande de nous écouter dans le cadre du conseil des pasteurs pour leur expliquer qu'on a pris la décision de suspendre certains de nous. Respecter la liberté d'organisation de la section d'Eusebou Nyanzalak.
Les 4 déjà aux arrêts sont poursuivis par le parquet de Makamba de rébellion et incitation à la rébellion contre l'autorité publique. Le parquet leur a requis 2 ans de prison et une amende d'1 million. Ceux qui les soutiennent disent qu'ils sont toujours recherchés par la police et le renseignement de Makamba. N'ayant pas la liberté pour se présenter au travail, ils craignent d'être révoqués d'un moment à l'autre. Ce qui risque cette sanction, selon nos sources, sont entre autres Obed Niemungire, directeur du lycée communal Bukeye, du chef-lieu de la commune Nyanzarak, et un certain Milak, infirmier au district sanitaire de Nyanzarak. Signalons que l'administrateur de cette commune, Gore Tiradukunda, est aussi de la même église unie du Saint-Esprit du Burundi, Ezebu. Malheureusement, nous n'avons pas pu la joindre pour plus d'informations, si il ne serait pas juge et partie dans cette affaire.
Pourquoi faut-il se faire vacciner? La vaccination contre la COVID-19 est recommandée par les scientifiques et l'Organisation mondiale de la santé pour trois raisons. La vaccination protège les personnes vulnérables et réduit le nombre de cas graves et de décès. La vaccination diminue le nombre d'hospitalisations et permet de maintenir le bon fonctionnement du système de santé pour tous. La vaccination permet de lutter contre les conséquences sociales et économiques négatives de la pandémie.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agathe Kakaoui.
Nous poursuivons le journal sur la radio Inzamba, Agathe Kakaoui. L'organisation de tests de niveau pour les enseignants en activité est une pratique non productive. C'est une critique de Laline Vizi, ancienne présidente du syndicat des enseignants STEB et activiste du droit à l'éducation pour tous. Cette décision prise par le ministère de l'Éducation est contestée par les syndicats des enseignants qui ont menacé hier d'entamer une grève si la mesure n'est pas suspendue. Eulalie Nivizi fait remarquer que la procédure du ministère de l'Éducation est injuste parce qu'elle n'est prévue nulle part dans la loi. On l'écoute.
Au niveau du gouvernement du Burundi, il y a une disposition du statut des fonctionnaires qui prévoit le perfectionnement des travailleurs. Et cette disposition sur le perfectionnement des travailleurs en ce qui concerne le contenu des formations, en ce qui concerne les modalités d'organisation, ces dispositions n'ont jamais été appliquées. Mais ce qui concerne l'évaluation des travailleurs en fonction, dans le sens de leur donner une formation permettant de confirmer leur affectation, cela est une façon qui a été appliquée dans certains pays pour éliminer les enseignants anciens, éliminer les travailleurs anciens, parce que le gouvernement veut sûrement réduire la masse salariale et maintenir en fonction les plus jeunes qui n'auront pas été soumis aux mêmes conditions que les plus anciens. Et la recommandation, c'est que le gouvernement du Burundi arrête cette procédure, cette évaluation des enseignants conduisant à leur donner une formation et laquelle formation peut conduire à l'élimination et même à la démission de l'enseignant. Il faut qu'il respecte le statut des fonctionnaires, que ces examens soient organisés pour les fonctionnaires et non pas seulement pour les enseignants, mais aussi qu'il procède à une séance de négociation, de dialogue entre le gouvernement et les syndicats pour qu'ils analysent les causes profondes de la dégradation de l'enseignement et que le remède contre la dégradation de l'enseignement soit donné à partir de la racine, à partir des causes profondes. Sinon, il serait injuste de soumettre un tel examen aux enseignants seulement.
C'était Eulalie Nivizi, activiste de l'éducation pour tous. Parlons brièvement sport, football pour être précis. Le Maroc a été hier le deuxième pays qualifié pour les huitièmes de finale. Après sa victoire contre les Comores sur un score de 2-0, le Maroc rejoint ainsi le Cameroun. Le Gabon, qui a fait match nul contre le Ghana sur un score d'un but partout, est presque qualifié pour le second tour de cette CAN, mais devrait attendre le décompte final après les matchs de groupe. Le Malawi, quant à lui, qui a gagné contre le Zimbabwe par 2-1, a fait un pas vers les huitièmes de finale, mais il leur faudra un résultat positif le 18 prochain contre le Sénégal. Ce dimanche, 4 matchs sont au programme. À 15h, la Gambie joue contre le Mali. À 18h, la Tunisie défie la Mauritanie. La Côte d'Ivoire joue contre la Sierra Leone. Et à 21h, l'Algérie croise le fer contre la Guinée équatoriale. En cas de victoire, le Mali, la Gambie et la Côte d'Ivoire valideront leur ticket pour le second tour de cette 33e édition.
Inzamba.
Beaucoup d'élèves, chaque année, arrêtent leurs études après le concours national à l'école fondamentale et se retrouvent abandonnés. Le mini-magazine Au cœur de la société d'aujourd'hui essaiera de comprendre avec vous la problématique autour de cette question. À la présentation, c'est Benny Axela Kana.
Au cœur de la société, Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agathe Kakawe, Radio RPA, Idjouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
S'inscrivant dans les réformes éducatives burundais, le ministère de l'Éducation a annoncé le 24 août 2016 les critères de réussite concernant le concours national de certification et d'orientation pour le poste fondamental. 5 ans après, au moins 30 000 élèves chaque année font des adieux à l'éducation scolaire pour avoir échoué au concours post-fondamental. Que deviennent donc ces élèves qui échouent? Que proposent les éducateurs? Les réponses, c'est dans ce mini-magazine au cœur de la société de ce samedi 15 janvier 2022, à la présentation Beni Axela Kana. Bienvenue. Depuis 2016, l'État burundais n'est pas revenu sur sa décision. Et parmi les élèves qui échouent au concours post-fondamental, certains ont déjà laissé tomber définitivement l'école et sont passés à autre chose. Émile Nibasumba, de la radio publique africaine, s'est entretenu avec certains d'entre eux.
J'ai réussi la 8e année. Arrivé à 9e année, j'ai échoué au concours national. C'est alors que j'ai vu que je ne pouvais rien faire que le taxi-vélo, car ma famille n'était pas en mesure de payer pour moi l'enseignement des métiers. Je demande à l'État de repenser à ma scolarité. Maintenant que je reste à la maison sans occupation, c'est un problème. C'est la solitude qui règne dans mon cœur. Car à l'école, on échangeait avec des camarades et on se prenait en charge psychologiquement de façon mutuelle. Je demanderai à l'État d'approcher les administrés afin de détecter les problèmes qu'ils endurent et d'en trouver des solutions. Je viens de terminer la 9e année. J'ai échoué au concours national et mes rêves de décrocher un diplôme ont été anéantis. Je m'occupe du travail des maçons du jour au jour pour gagner mon pain quotidien. L'État avait promis une formation en entrepreneuriat aux jeunes dont leur scolarité s'est bloquée à 9e et leur donner du capital pour travailler et s'autosatisfaire. Mais on ne sait pas où on en est avec cette promesse.
Les chiffres les plus récents fournis par le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique pour l'an 2020 montrent que le taux de réussite global était de 62,8%, qui correspond à 57 413 élèves sur 91 420, soit 34 007 élèves ont été victimes de la mesure. Dans la première promotion de ce nouveau système éducatif, 80 000 élèves n'ont pas eu la latitude de continuer les études post-fondamentales. Libéral Niwashida Kandi, expert en éducation, propose 3 solutions qui auraient pu être pensées bien avant la mise en place du système éducatif de l'école fondamentale.
C'est la classe moyenne qui contribue au développement d'un pays. Et la classe moyenne est composée justement par des personnes qui connaissent des métiers comme la plomberie, comme les installateurs d'électricité dans les bâtiments, lors des constructions, comme les mécaniciens auto et vélo et moto aujourd'hui au Burundi. Donc il aurait fallu construire plusieurs écoles de métiers à travers tout le pays et orienter ces élèves, ces enfants, ces jeunes dans ces écoles selon l'intérêt de chacun, selon le choix de l'enfant. Et à côté de ça, l'on constate aujourd'hui qu'il y a beaucoup de chômeurs qui terminent les études. Il faut penser à un financement qui donnerait un coup de main aux lauréats de ces écoles de métiers pour qu'ils puissent créer des coopératives et travailler ensemble. Je donnerai un exemple. Les Burundais construisent des bâtiments, des maisons, et ils ont besoin des chaises, des pupitres, des armoires, des lits, etc. Et sans oublier que l'État aussi construit des écoles. Et vous savez très très bien que les bancs et les pupitres manquent. Les menuisiers, par exemple, si on crée une école de menuiserie, les jeunes qui termineraient cette école se mettraient ensemble avec l'appui du gouvernement, un appui financier, et pourraient véritablement contribuer au développement du Burundi en produisant des équipements que les Burundais achèteraient chez eux. Je soulignerai aussi un autre élément qui me semble important, c'est de se poser la question pourquoi il y a autant de jeunes qui échouent. Il faut penser à une méthodologie qui permettrait justement de diminuer le nombre d'enfants qui échouent, puisque le coût de formation d'un enfant, d'un jeune, est important. Donc, se permettre de faire échouer autant de jeunes, je crois qu'il y a plus de 30 000 chaque année, ce qui est énorme, c'est une perte pour le pays.
Il y a presque 2 ans, le ministère de l'Éducation nationale a reconnu que les centres d'enseignement des métiers et centres de formation professionnelle où devraient être inscrits ces élèves qui n'avaient pas réussi au concours national sont dans l'incapacité de les accueillir. Et le gouvernement a décidé d'autoriser à titre dérogatoire le redoublement des élèves qui ont échoué au concours national. Et voilà, c'est ici que prend fin le mini-magazine d'aujourd'hui. Béni Axela Kahana, je vous le présente. À la prochaine.
C'était l'émission Au cœur de la société.
Merci, Béni Axela Kahana. Nous nous acheminons vers la fin de cette édition. C'est le moment de suivre la revue de presse hebdomadaire. Et c'est avec vous, Georges Nimenya.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Bonsoir. Veni poignée de main André Nevaye Kegame, s'interroge l'hebdomadaire Iwachu. Selon le journal Iwachu, les choses avancent dans le bon sens entre les deux pays. Et la clé de voûte sera une rencontre entre les deux chefs d'État. Et c'est sous peu à laisser entendre une source digne de foi après une audience accordée par le chef de l'État rwandais, Paul Kagame, à une délégation burundaise lundi dernier. Cette délégation était conduite par le ministre ayant en charge des affaires de la communauté est-africaine. Il était accompagné par le général de brigade Silas Pacifique Nsaguye, le nouveau chef du service de renseignement militaire, et Madame Laurentine Kanyana, actuel chef de cabinet civil adjoint du président de la République. L'équipe était porteuse d'un message. S'il y a eu des problèmes de brouille et de relations, il y a moyen d'en discuter de la base au sommet. C'est via le dialogue que ces problèmes peuvent être résolus, a déclaré Alain Bernard Mukurarinda, porte-parole du gouvernement rwandais. Revenant sur les frontières toujours fermées, il a indiqué que leur objectif était en processus et ne sont pas totalement fermés. Tout en faisant des yeux doux à Kagame Ndayishimiye, s'apprêterait à poser des valises à Kigali, écrit le journal à ligne Burundi Daily.net. Le président rwandais et burundais semble déterminé à tourner la page sombre des relations entre les deux pays à travers le réchauffement des relations diplomatiques. La seule pomme de discorde entre les deux est le renvoi au Burundi des opposants et acteurs politiques exilés au Rwanda, activement recherchés par Gitega, qui les a déjà placés sous mandat d'arrêt. Selon une source proche du parti présidentiel au Burundi, l'aile radicale incarnée par le premier ministre Alain Guillaume Bunyoni ne voit pas d'un bon oeil cette démarche du chef de l'État burundais quittant la main à Kigali. Le général Bunyoni pourrait même renverser les perspectives, du moins, selon son journal, pour doucher les espoirs du général Ndayishimiye. Depuis 2015, les deux pays se regardaient en chaîne de fiance. Kitega accusait Kigali d'entraîner militairement les opposants politiques burundais et d'en héberger d'autres. D'un côté, les autorités rwandaises accusent le Burundi d'être de mèche avec l'opposition rwandaise et de soutenir les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR. Hygiène et assainissement. Plus de 80% des ménages burundais utilisent des latrines traditionnelles. Nous le lisons dans le journal Burundi Echo. Selon ce journal, au Burundi, le manque d'un assainissement adéquat constitue aujourd'hui une entrave majeure au développement du pays et au bien-être de la population. Cette situation constitue à la fois une catastrophe sanitaire, environnementale et économique, mais aussi une bombe à retardement pour les générations futures, poursuit le journal Burundi Echo. La situation est intenable en ce qui est des lieux d'aisance. Plus de 80% des ménages du Burundi utilisent des latrines traditionnelles. Selon le résultat de l'enquête intégrée sur les conditions de vie des ménages au Burundi, récemment faite par l'Institut des statistiques du Burundi, ISTEBU, seulement 13% utilisent des latrines modernes. Néanmoins, en milieu urbain, 60% utilisent des latrines modernes. Dans la mairie de Bujumbura, la proportion est de 74%. Le manque d'assainissement affecte en priorité les populations vulnérables. Ce sont surtout les pauvres qui souffrent des maladies liées au manque d'accès à l'eau potable, à un assainissement adéquat et à un environnement sain. La situation ne semble pas s'améliorer malgré les objectifs que s'est fixé le gouvernement en matière de la politique d'assainissement, conclut le journal économique. Voilà, mesdames et messieurs, c'est parti que nous mettons un point final à cette revue de presse. Georges Nimenya, je vous souhaite à vous passer un bon week-end chez vous. Au revoir.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Et c'est avec vous, Georgeny Menia, que se termine cette édition. Merci à la rédaction de la radio Inzamba, à Té Kakaoué, pour la production de ce journal. À toutes, à tous, je vous souhaite un agréable week-end. Au revoir.